Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la fois, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. L'Institut catholique de Paris a lancé l'Institut des sciences bibliques afin de stimuler la recherche, d'élargir l'offre de formation et de dialoguer avec le monde. La Bible peut-elle rejoindre notre culture contemporaine? C'est la question que je pose à mon invitée du jour, Sophie Ramon, directrice de cet Institut des sciences bibliques, professeure d'exégèse et religieuse de l'Assomption. Bonjour Sophie Ramon.
Bonjour.
La Bible est le livre peut-être le plus vendu au monde encore aujourd'hui. Et pourtant, de plus en plus de nos contemporains perdent cette culture biblique. Où en est, selon vous, le dialogue entre la Bible et la culture contemporaine ?
Eh bien, je dirais que la situation est un peu paradoxale dans le sens où la Bible, le texte biblique continue d'intéresser beaucoup de monde. Il suffit d'aller dans des cours publics, dans les instituts comme l'Institut catholique, mais aussi dans des instituts tels le Collège de France, et on voit que ces cours sont relativement bien suivis. Donc il y a une attraction pour le texte biblique. En même temps, il y a une méconnaissance du texte biblique qui fait qu'une partie du patrimoine culturel peut échapper, parce que, qu'on le veuille ou non, la Bible a imprégné toute notre culture, la littérature, les arts, l'architecture. Et donc, connaître le texte biblique, c'est se donner des clés pour pénétrer la culture. Et finalement, le texte biblique a aussi cet intérêt qu'il ne présente pas de héros ou pas de personnages extraordinaires. Ils sont juste comme nous, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, on pourrait dire que le texte biblique, c'est un peu le reflet aussi de tout ce que vit et traverse notre humanité. Donc, on peut s'y reconnaître, on peut s'y retrouver, que l'on soit croyant. Et ça, évidemment, la Bible est le texte de communauté de foi, écrit par des communautés de foi pour des communautés de foi, mais c'est aussi un texte pour l'humanité, un texte que l'on peut lire, je dirais, même sans la foi, comme patrimoine, encore une fois, culturel.
Et qu'est-ce qui attire les personnes qui viennent au cours biblique aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs intérêts, je pense. Il y a l'intérêt de... Il y a, en fait, une recherche... par rapport au sens de la vie, beaucoup. Donc un questionnement où l'on se dit, finalement, on a des textes qui sont des textes anciens, mais qui demeurent des ressources pour aujourd'hui. Et la ressource, c'est donc quelque chose qui s'offre, que l'on peut explorer, et où on peut se retrouver. Et puis, il y a des gens qui viennent par simple intérêt culturel, et d'autres qui viennent pour des quêtes plus spirituelles. Et parfois, les choses sont assez mélangées, d'ailleurs, dans les uns et dans les autres.
Alors vous dites le texte biblique peut être une ressource pour aujourd'hui. Comment peut-il finalement aider à penser les défis contemporains ?
Alors d'abord parce que comme toutes les grandes œuvres de littérature, on y voit porter au langage ce qui fait notre humanité, ce qui fait nos existences, nos heures et nos malheurs, les valeurs qui peuvent nous habiter, les sentiments qui peuvent être les nôtres. Avec cette particularité, comme je disais, que les héros bibliques, enfin les personnages bibliques, ils sont tout à fait comme nous. Donc, on peut y retrouver toutes les questions quasi qui sont nos questions contemporaines. Évidemment, il faut remettre les textes dans leur contexte historique d'émergence. On ne va pas leur poser, ils ne se posaient pas les mêmes questions, ou en tout cas pas comme nous les posons aujourd'hui. Mais il y a pas mal de questions qui... parce qu'elles ont trait à l'humanité, qui peuvent être éclairées par les textes bibliques. Je vais prendre un exemple, parce que c'est peut-être plus facile à partir d'exemples. Aujourd'hui, on traverse de nombreuses crises. Une des crises que nous traversons, c'est la crise écologique. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ces textes anciens peuvent nous dire sur cette question de la crise écologique ? Ben en fait, on s'aperçoit qu'il y a des textes qui s'emparent déjà de cette question. Je pense par exemple au texte, un magnifique poème de Job, du livre de Job au chapitre 28, qui est un poème qui pose la question « Mais où est la sagesse ?» Et le texte fait part de la sagesse technique qui est celle de l'homme. Alors à l'époque, c'est l'exploitation minière qui est la technique connue. Et ce texte met aussi en garde contre une forme de démesure dans l'exploitation de la terre, hein, qui risque d'être abîmée. Et cette terre qui est décrite comme la terre mère, la terre pourvoyeuse de pain, hein, est abîmée par l'exploitation mesurée, ou peut être abîmée par l'exploitation démesurée qu'en font les humains pour en extraire les minerais. Ben voilà par exemple un beau poème qui vaut la peine d'être lu pour penser la question écologique.
Et en même temps, ce sont des textes donc écrits dans des cultures différentes, à des époques différentes. Comment ne pas les instrumentaliser ?
Alors, c'est là qu'il faut tenir, disons, une approche de la Bible qui soit une approche, je dirais pas scientifique, mais qui se donne des clés. Parce que le risque, effectivement, c'est de prendre le texte et d'en faire une lecture immédiate, ou de se l'approprier, hein, ou de l'actualiser, comme on dit, de façon très immédiate, sans avoir cherché à comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Donc la première chose, c'est d'essayer de lire attentivement le texte, de le replacer dans son contexte de production, et ensuite, ben, de voir qu'est-ce qu'il peut encore avoir à dire aujourd'hui, parce que, en fait, la Bible elle-même ne cesse d'être traversée par un mouvement d'interprétation et d'actualisation. Mais il faut avoir les clés pour le faire de manière le plus objective possible. De manière la plus objective possible.
Alors, vous parliez de la tradition d'interprétation des textes bibliques. Les juifs et les protestants, notamment, ont vraiment une tradition d'interprétation. Comment se porte l'exégèse du côté des catholiques ? Est-ce que, alors peut-être pas du côté des exégètes, mais est-ce que les personnes qui viennent, ou les catholiques, dans leur approche du texte biblique, est-ce qu'ils recherchent plus des réponses que des questionnements ?
Il y a un peu toutes les tendances. Il y a un peu le risque aussi de penser qu'on connaît la Bible parce que on l'entend dans la liturgie en particulier, mais avec le disons que la difficulté c'est que on entend des extraits de textes et que donc on peut croire qu'on connaît le texte. Et autre chose, c'est de lire un livre ou de lire un texte qui n'est pas sorti de son contexte littéraire, qui est replacé dans l'ensemble d'un livre, un passage qui est replacé dans l'ensemble d'un livre. Et il y a quand même pas mal de gens qui ont le désir de se former, alors pas forcément avec des cours qui soient très techniques ou très scientifiques, mais il y a pas mal de personnes qui cherchent à avoir des clés de lecture pour entrer dans les textes bibliques. Et là, je crois que la variété à la fois des formations qui sont proposées dans différents lieux, la variété des publications aussi, peut permettre de trouver ces clés voilà, pour lire et interpréter les textes bibliques.
Dans un véritable dialogue, on pourrait dire que finalement les deux parties en présence vont bouger. Comment la Bible peut-elle bousculer notre culture contemporaine et vice-versa ?
Je pense que alors je vais commencer par le vice-versa, par le versa. Donc, disons que la culture, elle peut. Les questions que nous nous posons aujourd'hui ou les défis qui émergent aujourd'hui bousculent la manière dont nous lisons les textes. Par exemple, aujourd'hui, il y a une sensibilité très grande à la question des femmes. Ça renouvelle la lecture de la Bible. Parce que bien sûr, la Bible est un texte qui a été écrit dans des sociétés où c'était les hommes qui dominaient, des sociétés patriarcales, et donc on peut dire tout simplement que c'est un texte qui a été écrit par des hommes et pour des hommes. Mais qu'est-ce que ça donne si on prête attention au fait que il y a quand même des personnages féminins dans la Bible, au fait que la lecture de la Bible par des femmes peut apporter une sensibilité différente? Ou bien, qu'est-ce que ça peut faire qu'on lise la Bible dans un contexte post-colonial ? Qu'est-ce que ça peut faire que... C'est tout ce qu'on appelle finalement les lectures contextualisées, qui déplacent l'exégèse traditionnelle, qui ont aussi leur avantage, mais qui ont aussi leurs limites. Mais en tout cas, elles déplacent les questions peut-être de l'exégèse traditionnelle, elles font prendre conscience que tout lecteur est un lecteur situé aussi, hein, que chacun nous allons au texte avec nos préjugés, avec nos histoires, et donc elles renouvellent la lecture de la Bible, comme aussi l'exégèse classique est sans cesse renouvelée par toutes les questions contemporaines. La Bible, elle peut aussi bousculer la culture, si l'on croit que, d'un point de vue croyant, ce texte est un texte matriciel et donc il est toujours une parole vivante qui s'adresse à nous et qui a quelque chose à nous dire. Et si on le lit comme simple patrimoine de l'humanité, donc d'un point en deçà de la foi, on pourrait dire, eh bien, encore une fois, il nous dit ce qu'est l'humanité. Et au fond, penser les questions d'aujourd'hui au travers du texte biblique peut apporter des éclairages assez inattendus ou peut en tout cas nous obliger à nous poser des questionnements que l'on se poserait peut-être pas si on faisait pas le détour par ce texte.
Est-ce que vous auriez un autre exemple? Vous parliez de l'écologie tout à l'heure. Un autre exemple de questions comme ça, actuelles, éclairées par la Bible?
Eh bien, par exemple, le pouvoir politique. Voilà. Que dit la Bible du pouvoir politique? Ou que dit la Bible, une question qui a beaucoup été débattue, y compris dans l'Église, que dit la Bible sur la question des abus? Abus de pouvoir, abus sexuels, enfin, toutes sortes d'abus. Par exemple, prenons l'histoire de David. Hein, du roi David, qui est un personnage bien connu, dans la culture encore, qui a donné d'ailleurs beaucoup de représentations dans l'art, ou dans le cinéma, ou dans la peinture. Si on lit l'ensemble du cycle de David, donc de l'histoire de David, on s'aperçoit qu'au fond, ce roi, ce personnage, il a traversé différents moments où on le voit comme un roi qui devient un despote, un père qui faiblit devant ses enfants. Enfin, on y retrouve beaucoup d'éléments qui pourraient nous aider à penser aujourd'hui la question des abus.
Un grand merci, Sophie Ramon. N'hésitez pas, chers auditeurs, à regarder les propositions de l'Institut des sciences bibliques sur le site de l'Institut catholique de Paris. Un grand merci à tous d'être fidèles à 1000 questions à la fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Florence Châtel. En effet, 1000 questions à la fois avec vous Florence, et tous les samedis, puis à retrouver en podcast. N'hésitez surtout pas à vous connecter dès maintenant sur les sites de vos radios favoris, rcf.fr, radionotredame.com. Allez, restez à l'écoute. Dans moins de 5 minutes, nous évoquerons une exposition à ne pas rater. Tiens, peut-être une idée de sortie pour ce week-end. Ça se passe du côté de la Porte de Versailles à Paris. Une exposition qui retrace les 100 ans de l'histoire de Disney. Et un patrimoine qui traverse des générations. On a tous un Disney qui nous a marqué, puisqu'en l'espace de 100 ans, les générations plus anciennes comme plus récentes ont été touchées par Disney, que ça soit Cendrillon, Le Roi Lion, Ratatouille ou plus récemment La Reine des Neiges par exemple. Sébastien Durand, expert Disney, sera avec nous pour nous parler de cette magnifique exposition donc jusqu'au mois d'octobre, Porte de Versailles à Paris. Ça sera dans moins de 5 minutes.